les circulations des pratiques jardinières et des modèles paysagers entre jardiniers amateurs et jardiniers professionnels est fort rarement étudiée, en fait. Pourtant, il me semble intéressant de comprendre comment certaines tendances se diffusent des uns aux autres, comment, entre jardiniers professionnels, jardiniers amateurs, paysagistes, horticulteurs, les pratiques et les modèles de bonnes pratiques se diffusent. Alors, il y a quelques exceptions, notamment Martin Berg, qui a travaillé sur les jardins paysans. Et en fait, en abordant la question des concours de fleurissement, elle a bien montré comment, en fait, du haut vers le bas, des modèles jardiniers passaient depuis les normes de fleurissement en communaux jusqu'à l'espace privé. Il y a aussi Pauline Frileux, qui a montré dans sa thèse sur la haie bocagère la manière dont, en fait, à partir de services municipaux qui se sont fortement engagés pour la réduction des haies monospécifiques et la diffusion de la haie vive, finalement, comment les habitants se sont appropriés aussi ça. Mais souvent, ça reste à sens unique, c'est-à-dire qu'on voit assez peu comment, depuis l'habitant, les pratiques professionnelles aussi sont amenées à changer. Concernant les jardins potagers, qui m'intéressent en particulier, on a vu au sein du colloque qu'ils sont souvent positionnés dans un champ de littérature portant sur l'agriculture urbaine, pour la bonne et simple raison qu'ils produisent de l'alimentation, du nourricier, des choses qui font appel plutôt à un référentiel agricole que horticole. Quand on pense au jardinage, on a tendance à tout de suite mettre le mot horticole dessus, comme si... voilà. Or, mon postulat, une de mes hypothèses de recherche, c'est que ces espaces de jardins partagés, de potagers urbains, peu importe comment on les appelle, et ces pratiques émergentes, qui prennent place fort souvent dans l'espace public urbain, donc l'espace aussi de visibilité de la ville, l'espace qui se donne à voir, l'espace de mise en scène aussi de la ville, ne sont pas sans interroger les pratiques paysagistes qui ont, depuis des décennies, acquis la légitimité de façonner, de modeler la nature urbaine, à la fois en termes concrets et en termes aussi d'idées de ce qu'est la nature urbaine. Voilà, donc, dans cette communication, je vais essayer de travailler sur cette question des interactions et des échanges entre les pratiques des jardiniers, disons, amateurs, et des jardiniers, disons, professionnels, bien que ces catégories soient évidemment une construction aussi que j'ai faite, parce que de nombreux jardiniers professionnels sont aussi des jardiniers amateurs dans leur vie privée. Et puis, au sein même des jardiniers professionnels que j'ai étudiés, c'est-à-dire les jardiniers communaux, il y en a certains qui ont fait des écoles d'horticulture et d'autres qui sont des aides-jardiniers qui n'ont aucune formation. Donc, la dénomination professionnelle aussi recoupe des réalités extrêmement diverses, tout comme pour l'agriculture, en fait. Voilà. Donc, je propose, en fait, d'opérer un changement d'échelle en explorant la manière dont des pratiques émergentes de jardinage en des petits espaces disséminés dans la ville interrogent plus largement les modes, alors de production, d'entretien, si ce n'est de création, pour reprendre les termes de Jean-Marc Besse, de la nature urbaine, voire même la fabrique de la ville. Mais là, je ne vais pas aller sur ça aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose d'abord de commencer par voir comment les pratiques émergentes de jardinage amateurs, potagers, fort souvent en ville, se positionnent vis-à-vis de l'existant, des modèles de nature qu'ils... Enfin, quand je dis l'existant, Monique Poulot parlait hier de la relation que les urbains entretiennent à l'agriculture via leur désir de nature. Évidemment, quand je dis comment les jardiniers se positionnent vis-à-vis de l'existant, c'est aussi, en fait, comment ils construisent une idée de ce qu'est l'existant. On est toujours aussi dans le domaine de la représentation et de quelque chose d'un petit peu fantasmé. Donc ça, ce sera plutôt dans ma première partie, qui est la plus courte. Et ensuite, d'autre part, la manière dont ces pratiques émergentes, de ces acteurs émergents que je présenterai juste après, suscitent aussi des questions, des adaptations, des expérimentations de la part des praticiens existants. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les jardiniers amateurs invitent les jardiniers professionnels à se saisir de nouveaux modèles et de nouvelles catégories pour penser leurs pratiques et comment ça les invite aussi à prendre en compte la question de la production légumière ou fruitière et de l'alimentation. Et comment, en fait, ça invite à une prise de distance vis-à-vis du modèle horticole qui a longtemps fondé la pratique jardinière urbaine. Juste très rapidement, pour vous présenter le contexte de cette recherche, j'ai travaillé dans le canton de Genève auprès de 6 groupes de jardiniers. Alors, j'utilise le mot groupe pour simplifier, mais c'est juste pour spécifier que j'ai toujours travaillé avec des individus qui sont en relation entre eux, bien que le niveau de groupe ou la manière dont ils font collectif est extrêmement varié d'un cas à l'autre. Ce qui m'intéressait, en tout cas, c'était dans chaque commune que j'ai étudiée, d'aller voir à la fois le service d'espace vert et des expériences habitantes, et d'essayer d'interroger le rapport entre les deux, la manière dont se crée du réseau et dont se font des circulations de connaissances et de pratiques. Donc voilà, j'ai fait ça dans 3 communes, hein, le centre-ville, enfin la ville-centre de Genève, et une commune qu'on pourrait dire suburbaine, qui est vraiment accrochée à la ville et qui a une forme urbaine. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les débats sur les mots de l'urbain, du suburbain, du périurbain, etc. Mais voilà, que je qualifierais de suburbaine, et une autre plus de périurbaine, où on est plus vraiment dans du résidentiel un petit peu lâche. Voilà, donc entrons dans le vif du sujet. Commencer par voir comment les pratiques émergentes se positionnent vis-à-vis de ce qu'elles pensent être la nature urbaine existante. Alors, je parle de pratiques émergentes. Le jardinage urbain amateur, il a toujours, ça fait longtemps qu'il existe à Genève comme ailleurs. Et en particulier à Genève, il y a un héritage important en termes de jardins familiaux. On y compte pas moins de 3000 parcelles pour une population d'environ 460 000 habitants. D'après les recherches de Jean-Noël Gonzalez du début des années 2000, alors que ça a peut-être changé depuis, mais il comptait environ 700 parcelles dans l'agglomération marseillaise. Alors je ne sais pas si les Marseillais contredisent ce chiffre ou pas, mais voilà, ça montre aussi une différence dans la manière d'appréhender cette question au niveau local. Mais aujourd'hui, à Genève, ce qui est intéressant à voir, c'est que ces jardins familiaux sont remis en question. Il y avait une loi de 1960 qui assurait leur sauvegarde avec des baux de très longue durée. Et en fait, la politique actuelle s'interroge sur le fait de remettre en question cette loi sur la sauvegarde. Il y a d'ailleurs eu un article de Arnaud Frauenfelder et deux de ses collègues dans le dernier numéro d'Espace et Société sur agriculture et ville qui travaille vraiment cette question des discours portant sur chacun des modèles jardiniers. Voilà. Quoi qu'il en soit, en parallèle se développe le modèle du potager urbain ou du plantage, puisqu'en Suisse, romande en tout cas, à ma connaissance, on utilise très très peu le terme de jardin partagé. Et il y a vraiment un vocable propre à la Suisse romande qui s'est développé, notamment le terme de plantage, qui renvoie au vieux français, hein, ce qui c'était l'acte de planter, en fait, tout simplement. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que même s'il ne s'appelle pas jardin partagé, les concepteurs font extrêmement souvent référence à Éric Prédine, qui est un peu la figure de proue des jardins partagés en France. Donc il y a quand même aussi des références qui se font à ce modèle-là. Donc, ces nouveaux modèles de jardins ont commencé à émerger à Genève au début des années 2000. En 2003, on a le premier plantage qui est créé par une maison de quartier, à la lisière d'un parc. Ça, c'est intéressant parce que les premiers ont toujours été faits dans des parcs. Donc ça, c'est en 2003, dans un quartier relativement aisé. Donc ça, c'est quand même intéressant. Le second apparaît en 2006, et c'est un des lieux que j'ai étudié. Toujours dans un parc, mais cette fois-ci, pas par une maison de quartier, qui à Genève est une structure associative, mais cette fois-ci par l'unité d'action communautaire du quartier, qui est en fait l'organe décentralisé du service social dans les quartiers. Donc là, on est juste derrière la gare, dans un parc à la française. Ensuite, il y a des municipalités en dehors de la ville de Genève qui se sont aussi appropriées ce modèle. Ainsi, à Vernier, la commune que j'appelle suburbaine, dont je parlais tout à l'heure, dès 2009, les premiers plantages voient le jour. Cette fois-ci, on est dans une commune beaucoup plus populaire, on va dire. Vernier, c'est la ville du canton où il y a le plus de chômage, où il y a le plus de population immigrée, où il y a le plus de soucis en termes sociaux. Et donc, eux, ils ont mobilisé aussi le plantage comme outil à la fois environnemental et social. Là, à ce moment-là, c'était des expériences, individuelles. Ensuite, en 2011, émerge Équiterre comme acteur central de cette question-là à Genève et en Suisse romande. Équiterre, c'est une association qui est là pour faire du conseil en développement durable auprès des collectivités locales. Et en 2011, ils ont obtenu un financement de la loterie romande, donc c'est l'équivalent de la Française des Jeux, hein, mais qui subventionne beaucoup de projets citoyens. Et donc, à partir de 2011, ils ont proposé leur service dans l'accompagnement aux projets de potagers urbains aux communes. Et entre 2011 et 2014, ils ont créé 9 potagers urbains collectifs dans le canton de Genève. Et en fait, ils sont vraiment institués comme modèle pour ces jardins-là. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que, généralement, les salariés d'Équiterre repèrent des endroits qui leur paraîtraient pertinents, prennent contact avec les communes, Agenda 21, service d'espace vert, etc. Et à partir du moment où la commune donne son accord pour ce projet, Équiterre, en fait, lance un processus qu'ils appellent participatif, où les habitants sont invités, via un courrier envoyé à l'ensemble des habitants de la zone, à prendre part à un processus un petit peu participatif, où ils doivent décider de l'organisation des parcelles, du règlement interne, et du nom du jardin, etc. Voilà. D'autres projets sont aussi faits par des habitants. C'est beaucoup plus rare à Genève, hein, il y en a très peu. en tout cas à ma connaissance. Par exemple, il y a divers exemples, mais un qui est celui qui a le plus fait parler de lui, c'est celui du collectif Beaulieu. Alors, qui prend place dans le même parc que mon image en haut à gauche. Sauf que cette fois-ci, c'est pas la municipalité qui a créé un projet, c'est vraiment des habitants du quartier. Et en fait, ils se sont réappropriés l'ancien centre de production horticole du service des espaces verts. Donc, il y a des serres et des couches horticoles, parce qu'en fait, ils sont allés dans un endroit un peu plus éloigné du centre pour avoir plus de place. Et donc, cet endroit s'est retrouvé en friche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui mêle pratique agricole commerciale et jardinage. Parce qu'en fait, il y a à la fois la production de jeunes plants qui sont ensuite vendus à toutes les AMAP locales. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes plants bio des AMAP locales sont quasiment tous produits au centre-ville à cet endroit-là. Donc, ça crée aussi, en termes de réseau, des choses intéressantes. Il y a aussi un jardin de cueillette, un rucher, un poulailler, et ainsi que des différentes couches qui sont utilisées par des gens. Voilà. Alors, l'un des projets hébergés par ce collectif, c'est notamment celui de la guérilla jardinière, qui a une couche dans laquelle ils peuvent préparer les plantons avant d'aller faire des choses en ville. Donc on voit que c'est vraiment une sorte de pépinière assez intéressante en plein centre-ville. Voilà. Et donc on le voit, les projets touchant au jardinage urbain, disons potager, amateur, sont multiples et portés par une variété d'acteurs, prenant une variété de formes et s'inscrivant dans une variété d'espaces, mais le format proposé par Equiterre reste largement dominant. Donc maintenant, ce que je propose, c'est de voir comment... à la fois au niveau des potagers urbains et de la guérilla jardinière, qui sont mes deux cas d'étude au niveau du jardinage amateur, les acteurs, les porteurs de projets, légitiment leurs projets en se référant à ce qu'ils pensent être les pratiques existantes. Premièrement, donc, la guérilla jardinière. C'est quand même, disons par définition, un groupe qui se veut subversif. Et ce qui est intéressant, c'est que donc cette notion de subversion se base sur une critique des modèles existants qui est relativement forte. Par exemple, ici, on a Émilie, qui est une des membres fondatrices de l'association Guérilla Jardinière à Genève. Donc je lui demande, au cours de l'entretien, ce qui l'intéresse le plus là-dedans, parce qu'elle m'a beaucoup parlé de l'idée d'interdiction, etc. Puis finalement, ce qu'elle dit bien, c'est que c'est l'histoire de la transgression qui l'intéresse, mais surtout de transgresser la norme actuelle des jardins et des espaces verts. Que ce soit pas un truc carré, et réglementé par la ville, propre et tout ça, j'aimerais que ça vive. Quand je prends le train, là, je vais souvent en cours, je prends le train Genève-Lausanne, je passe à Rolles, et au bord de la gare, c'est de l'herbe un peu sauvage, quoi. Et donc, voilà, elle continue sur ça en disant qu'elle aimerait bien que les espaces verts cessent d'être millimétrés, et qu'il y ait un peu plus de folie. Et à la fin, donc là, c'est plutôt la critique de la pelouse par rapport à la prairie un peu folle, et ensuite, elle continue, j'ai pas tout mis, hein, mais elle dit aussi, les ronds-points fleuris avec des œillets en forme de croix suisse, ça me dégoûte. Je suis très contente que ce soit des espaces verts, rien, mais elle trouve ça dégueulasse. Voilà, ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Il y a vraiment un vocabulaire très fort, d'un rejet vraiment très fort de ces massifs d'œillets, massifs de géranium, de pétunia, de toutes ces choses-là. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux exemples auxquels elle fait référence, qui sont quand même Genève et Carouge, j'ai fait des entretiens avec les directeurs d'espaces verts et avec les jardiniers, c'est que c'est des communes qui sont très avancés, très impliqués dans le développement d'un entretien différencié, qui ont mis énormément de prairies de différentes sortes en place et qui ont adopté un fleurissement largement basé sur les vivaces avec une remise en cause de l'annuel, des annuels. Donc on voit bien là que c'est aussi contre une certaine idée en fait de la nature en ville que ces membres de la guérilla jardinière se positionnent et pas forcément contre quelque chose qu'ils auraient vraiment vu. Enfin, il existe encore des massifs d'œillets, mais ça reste contre une certaine idée de la nature en ville, plus que vraiment contre les pratiques existantes qu'elles se positionnent. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les habitants sont montrés comme étant des gens qui, finalement, participeraient, hein, deuxième citation, plus à rendre ça moins carré. D'autant plus que si on se réapproprie son quartier, c'est vu comme très bien. Mais donc, l'habitant comme acteur peut être un peu plus fou de la ville. Mais toutefois, en disant bien, je pense aussi que c'est hyper bien qu'il y ait des vrais jardiniers engagés par la ville qui s'occupent de ça, mais c'est probablement en fait les indications qui sont mauvaises. Donc là, on l'a vu déjà pour l'agriculture, il ne s'agit pas de dire que le jardinage va remplacer l'agriculture, enfin voilà, que le jardinage urbain ou l'agriculture urbaine vont remplacer l'agriculture, il s'agit plutôt de parler en termes de complémentarité. Là, c'est pareil, ce n'est pas de dire que le jardinage potager des habitants vise à remplacer les pratiques actuelles, mais à entrer en complémentarité avec elles, et notamment parce que l'échelle n'est pas la même. C'est toujours l'échelle du quartier qui est présentée comme optimale pour les pratiques des habitants, tandis que les jardiniers municipaux seraient plutôt à même d'avoir la vision globale de la ville. Voilà. Si on en vient à l'association Équiterre, donc qui porte les projets plutôt de potager urbain, c'est intéressant de voir qu'elle aussi porte un discours critique sur ce qu'elle appelle les espaces verts stériles, en précisant toujours dans les différentes communications qu'il y a vert et vert. Sous-entendu qu'il y a le bon vert et le mauvais vert. Et le mauvais vert, encore une fois, apparaît comme étant la pelouse. Il considère toujours qu'il faut remplacer la pelouse par autre chose. La brochure Équiterre Info, donc ils font une petite brochure à destination des habitants régulièrement, en 2011 mentionne ainsi que de vastes pelouses ou de petits espaces en friche sont autant d'interstices urbains, de lieux délaissés qui peuvent simplement et rapidement se transformer en potager urbain. Et ce que je trouve intéressant là, c'est l'équivalence qui est faite entre la pelouse et la friche. Surtout quand on sait, au niveau de l'histoire sociale de la pelouse, qu'elle a quand même souvent été mobilisée comme un outil aussi de distinction sociale. Le beau vert, la belle pelouse verte, la belle moquette, c'était quand même un signe aussi de distinction et de mise en scène. Donc là, de mettre en équivalence la pelouse et l'espace en friche, c'est quand même aussi révélateur d'une sorte de bouleversement dans la hiérarchie de ce qui est le bon espace vert en ville. Voilà. Et on voit d'ailleurs dans les règlements que laisser sa parcelle en friche ou y faire pousser des arbres ou du gazon implique la perte du droit d'en disposer. Donc en fait, dans les règlements de Équiterre, il y a toujours l'interdiction de faire de la pelouse. Et parce que, justement, et c'est la citation d'après, ça doit vraiment être basé sur du potager, pas arbre, pas pelouse par exemple. C'est vraiment que ce qui se consomme. Les fleurs, c'est toléré, mais tout le reste qui ne se consomme pas est plutôt mal vu et ça peut amener à perdre le droit de jouir de sa parcelle. Et ça, c'est aussi intéressant parce que il me semble que Jeanne Pourrias expliquait qu'au contraire, dans beaucoup de jardins partagés, notamment ceux du programme Main Verte à Paris, au départ, enfin, la fonction alimentaire, vraiment potagère, est venue secondairement, que bien souvent, c'était d'abord aussi des actions de réappropriation et d'embellissement. Et là, en fait, on voit que c'est extrêmement... La normativité est inverse, c'est vraiment des lieux d'abord pour cultiver, pour manger. Voilà, donc, pour conclure sur ça... On voit que tant la guérilla jardinière que les potagers urbains se fondent sur une critique d'une certaine vision de l'existant qui s'incarne dans des figures particulières que sont la pelouse, le gazon, et le massif fleuri, absolument rejetés par ces deux types d'acteurs, bien que voilà, faire des types et faire des catégories d'acteurs est toujours un petit peu compliqué. Mais malgré ce positionnement, l'ensemble de ces acteurs... n'essaye pas tant que ça de s'opposer aux personnes qui mettent en œuvre ce qui est vu comme étant l'existant, mais d'entrer en relation avec eux. C'est ça que je trouve central, c'est l'idée d'entrer en relation pour participer à faire évoluer les pratiques. Ainsi, Équiterre, notamment, travaille toujours main dans la main avec les services d'espace vert et avec les jardiniers communaux. Les jardiniers communaux sont toujours invités à participer au processus participatif avec les habitants. Et ils sont invités à notamment animer certaines séances sur le jardinage. C'est eux en plus qui mettent en place concrètement le potager, hein, qui font qui retournent la terre, qui font l'arrivée d'eau, le parcellage, tout ce qu'on veut. Et donc il s'agit de se reposer sur des forces vives et des compétences existantes, tout en participant à valoriser ce métier auprès de la population. Il y a souvent ce terme de valoriser aussi le jardinier. Ce qui n'est pas anodin, parce qu'on en a déjà parlé, notamment le soir de la projection de film, qui a souvent un sentiment d'invisibilité aussi du jardinier. Il y avait certaines personnes dans le film qui expliquaient que des fois sur des petites parcelles en ville, ils ont l'impression que quand ils ont fini ce qu'ils avaient à faire, personne ne voit ce qu'ils ont fait. Donc là, ça, c'est aussi un moyen de visibiliser ces services-là. Du côté de la guérilla jardinière également, on voit cette volonté d'entrer en dialogue avec les praticiens. Donc Robert, notamment, qui est le membre fondateur de la guérilla jardinière, c'est intéressant de voir qu'en 2012, même année que l'année de la création de l'association, il a fait une motion. Alors en Suisse, il faut savoir qu'il y a une démocratie participative locale assez forte, et les citadins peuvent demander aux élus de prendre position, de s'engager vis-à-vis d'une cause à travers une motion. Donc lui, il a déposé une motion... pour la reconnaissance et la légitimation et l'autorisation de la guérilla jardinière en ville. Et plus que ça, il demande à la ville de mettre à disposition des graines de plantes potagères et décoratives indigènes aux habitants. Donc ça montre quand même là qu'il y a une volonté d'entrer en relation avec l'existant et avec les acteurs. Donc là, on a Robert qui nous explique qu'il s'agissait de donner un cadre général... et notamment donc de créer une implication civile, enfin voilà, de faire en sorte que la municipalité aide les gens à s'impliquer. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, l'émotion sont toujours... Il y a toujours des experts qui sont appelés à se prononcer sur l'émotion pour que le conseil municipal puisse prendre sa décision. Et là, les experts, ça a été le directeur du service des espaces verts et le directeur du conservatoire Jardin Botanique, qui donc ont reçu le texte de la motion et ont été appelés à le discuter et à le débattre avec les membres du conseil municipal. Et Robert explique là que lui, il avait un petit peu peur, il pensait que, alors il nous dit là, voilà, je craignais que, Jardin Botanique, un conservateur, il soit très biologie et qu'il soit très peu ouvert finalement sur toutes ces expérimentations. Mais en fait non, quand on lit le compte-rendu des débats, on voit qu'en fait le directeur du service des espaces verts et le directeur du conservatoire Jardin Botanique ont vu en fait dans cette guérilla jardinière aussi un outil pour entrer en relation avec les habitants. Donc on voit qu'en fait... ça crée aussi un point de communication entre le désir des habitants de se faire reconnaître, mais en même temps aussi le désir des services d'espaces verts et autres de communiquer avec la population. Donc ça peut créer un axe en fait de rencontre entre ces deux préoccupations-là. Ensuite, je crois que j'ai encore mis autre chose. Voilà. Alors, finalement, avec un peu de recul, un an et demi après, ce que nous dit Robert, c'est que c'était une expérience intéressante. Il y a finalement un texte qui a été validé, hein, c'est bon, la ville promeut la guérilla jardinière, mais il dit personne n'en a rien fait. Mais toutefois, c'est pas grave, c'est écrit. Et ce qu'il voulait finalement, c'était faire découvrir le sujet à des parlementaires, faire réfléchir, et que finalement, ça, ils y sont arrivés. Et ce qu'il dit là, c'est vrai, mais on va voir par la suite que c'est pas non plus complètement resté lettre morte. En effet, le directeur du service des espaces verts qui a pris connaissance de cette motion, dans des projets ultérieurs, il s'est largement inspiré en fait de ces pratiques-là. Voilà. Donc là, on a vu du côté des porteurs de projets. Comment les jardiniers communaux, qui sont quand même les personnes sur lesquelles je me focalise vraiment dans ma recherche, hein, je crois que je m'intéresse quand même principalement à la figure du jardinier professionnel et son évolution aujourd'hui face à l'émergence d'autres pratiques et d'autres acteurs, comment finalement, eux, ils se positionnent vis-à-vis de ces demandes, de ces pratiques, de ces entrées en relation que tentent certains acteurs. Je vais proposer une entrée commune par commune pour voir un petit peu les variations et puis conclure de manière un petit peu plus générale ensuite. À Genève, qui est quand même un gros service, hein, il y a 200 collaborateurs, dont 150 jardiniers, etc., il y a une difficulté, enfin en tout cas une sorte de prise de distance vis-à-vis de ce sujet parce que le service estime qu'il n'y a pas les forces vives pour prendre en compte cette question-là. Ils reçoivent beaucoup de coups de fil d'habitants. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les habitants, ils n'ont pas trop une personne à qui s'adresser quand ils ont des demandes de potager urbain. Alors, ils s'adressent à l'agenda 21, ils s'adressent au service social, ils s'adressent à l'urbanisme, ils s'adressent au service des espaces verts. Il y a un peu tout le monde qui reçoit des demandes. Et le service des espaces verts, il a discuté, il s'est dit... Voilà, nous, on est favorable parce que c'est très sympa, on a envie que les gens se sentent bien dans les parcs, et ce projet, finalement, on y adhère, il n'y a pas de raison d'être contre, mais ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est la gestion des grands parcs et l'entretien, et c'est pour ça qu'on travaille avec le service social. Eux, en fait, ils redirigent les demandes vers le service social. Mais ils redirigent les demandes, mais ce qui n'empêche pas qu'ensuite, lorsque le service social met en place les projets, il fait appel aux jardiniers du service des espaces verts pour mettre en œuvre concrètement les projets. Donc c'est ce qu'il dit là ensuite, Jean-Théodore Bierry, hein, qui est collaborateur scientifique au service des espaces verts. Nous, on met en place le potager, on avait prêté du matériel sur Beaulieu, on donne des petits conseils, mais on estime que ensuite c'est une surface sur laquelle on n'intervient plus. Même si elle est au milieu d'un parc, on n'intervient plus sur cette surface. Donc en fait, c'est finalement une participation des jardiniers en amont, vraiment la mise en place, le prêt de matériel, etc. Et ensuite, au fil du temps, un petit peu de l'ordre du conseil. Et ça, d'ailleurs, au niveau des jardiniers, c'est quelque chose d'intéressant parce que, bon, ils ont toujours eu affaire à la population qui s'exprime toujours dans les rues, hein, mais qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas arracher la fleur à ce moment-là. Elle est encore... Enfin, ils sont tout le temps en relation avec les gens, mais là, c'est un autre type de mise en relation puisque les gens demandent du conseil plus qu'ils ne se positionnent vis-à-vis des pratiques. Enfin, c'est un autre type de relation avec la population. Cette espèce d'ambiguïté vis-à-vis du potager urbain, elle s'explique aussi parce que pour le service des espaces verts, ils sont pas sûrs que ce soit vraiment un type de nature qu'ils ont envie de privilégier parce que ils ont un peu cette crainte que les habitants ne mettent pas en œuvre les mêmes exigences en termes de pratiques que, faut savoir que depuis 2005, il y a l'interdiction des produits phytosanitaires dans l'espace public, pour les jardiniers professionnels, etc. Et ils ont un petit peu cette crainte que, comme il dit, les petits jardins privés sont les endroits, des fois, vraiment les plus pollués, où il y a le plus de plantes tropicales, le plus de plantes invasives. et le plus de... voilà, il ne savait plus quoi dire. Mais voilà, je pense que l'aspect social est très intéressant. Donc, il y a aussi cette idée que ce ne sera pas forcément le bon type de nature parce que les gens ne mettent pas forcément en place la bonne pratique. Et voilà. Donc, généralement, les potagers urbains à Genève sont plutôt pris en charge par le service social à travers les unités d'action communautaire dont j'ai déjà parlé. Et le service des espaces verts, il a fini par prendre position pour dire que, finalement, eux, ils voulaient pas que ça se passe dans les espaces dont ils s'occupent. Et ils ont élaboré la demande, parce qu'en fait, il y a un groupe de travail interdépartement qui s'est mis en place sur cette question. Et eux, ce qu'ils défendent auprès de ce groupe de travail, c'est plutôt de favoriser ces projets dans les espaces privés, de faire en sorte de créer des partenariats avec les régies immobilières pour que ça se fasse plutôt dans l'espace privé et que... voilà, qu'ils n'aient pas trop à s'occuper de ça. Avoir d'autres manières de se positionner. À Thonet. Thonet, c'est une commune qui se rapproche assez du cas de Genève en matière de relation de l'équipe des jardiniers au potager urbain, parce qu'elle n'avait pas à l'interne de projet de potager. C'est Equiterre qui est venu un peu par au-dessus apporter le projet de potager. Et donc, et ensuite, généralement, Equiterre, ce qu'ils font, c'est qu'après avoir fait ce processus participatif, inauguré le potager et suivi un peu les premières semaines, Equiterre se retire et laisse la main aux municipalités et en particulier au service des espaces verts, afin d'assurer une gestion dans la proximité, etc. Mais Equiterre a certaines attentes au sujet desquelles les communes sont amenées à négocier. Et notamment, normalement, Equiterre veut qu'il y ait un suivi avec les jardiniers, que les jardiniers proposent régulièrement des cours pour s'assurer finalement de la continuité des pratiques, etc. Et dans le cas où Equiterre sent qu'à l'interne, il n'y a pas de force vive, il propose aussi sinon que ce soit des jardiniers indépendants, parce qu'il y a certains jardiniers dans le canton qui se sont maintenant spécialisés là-dedans, qui interviennent uniquement en tant que jardinier conseil dans les potagers urbains. Donc sinon, Equiterre en fait est en relation avec ces jardiniers-là et les propose à la place des jardiniers municipaux. Mais à Thonet, il n'en a pas été question. Et le conseil administratif, donc l'élu en charge des espaces verts, il a vraiment voulu mobiliser en fait ses jardiniers dans la partie en amont. Il a vraiment voulu, comme il dit, Equiterre voulait nous faire un mandataire pour faire ces quelques cours, mais il dit ça c'est exclu, j'ai des espaces verts, j'ai des gens qui sont compétents, qui sont là toute l'année, c'est eux qui vont faire l'apprentissage. Donc ils sont venus avec du terreau, avec les bêches et tout, pour apprendre aux gens sur une journée d'apprentissage et d'autres modules à utiliser le terrain, comment il fallait faire, etc. Donc c'est les jardiniers municipaux qui ont mis un cadre, comme il dit, aux pratiques. Et pour lui, ça coule de source, hein, parce que d'une part, le potager urbain est créé dans un espace vert dont le service des espaces verts avait simplement la maîtrise et la charge. Et d'autre part, c'est ce qu'on va voir ensuite, c'est pour lui un moyen de les sortir de leurs activités habituelles routinières. Ce qui s'est rendu compte aussi du souci de la routine. Et il dit, voilà, il travaille dans la commune toute la journée à couper des arbres, à ramasser des feuilles, à faire des trottoirs, etc. Et donc, il dit que c'est aussi un moyen, finalement, de régler ce problème de la routine et de les lancer sur des projets autres. Mais aussi de les valoriser. Il dit, voilà, qu'ils le veuillent ou pas, hein, les jardiniers, parce que je lui ai demandé, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont accepté de prendre cette charge en plus par rapport au travail qu'ils ont déjà hein? Il dit, voilà, bon, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. Mais en plus, les gens les ont remerciés, ils leur ont offert des bouteilles, ils ont discuté avec eux, et en fait, les jardiniers communaux se sont trouvés valorisés. Donc par derrière, pour eux, ça a été très bon. Et il dit, en fait, ils ne sont plus vus comme des gens qui nettoient la rue, mais comme des gens qui sont là pour les aider, les jardiniers des potagers, et de qui ils ont tout à apprendre. Donc voilà, c'est une manière aussi, encore une fois, de rendre visible le jardinier municipal. Ensuite, donc, je suis allée voir du côté de ces jardiniers en tant que tels, parce que là, j'étais avec le conseiller administratif. Lui, il est tout en haut, il est là pour prendre les décisions. Donc, je suis allée voir avec les jardiniers ce qu'ils en pensent. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que Patrick, de la première citation que vous avez sur la gauche, lui, c'est le responsable du service. Et il est d'accord avec cette politique, hein, mais il explique que pour lui... La réalisation des cours de jardinage a été pénible, parce qu'il n'est pas maraîcher, mais paysagiste. Et donc, il m'a expliqué que lui, finalement, il a été chercher toutes les informations qu'il a données aux gens sur Internet, et que les gens auraient très bien pu aller chercher les informations eux-mêmes, en fait. Comment on retourne la terre, comment on apporte du compost, à quelle période pousse quel légume, etc. Et lui, en fait, ça faisait pas partie de sa culture professionnelle, donc c'était pas hyper évident. Et ce qu'il dit, c'est que, en fait, Equiterre voulait qu'on fasse un cours de jardinage maintenant, donc en cours d'année. Puis lui, il a regardé avec le responsable des services techniques qui a dit « Non, 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 mais c'est pas la peine, Et finalement, Patrick, le responsable du service des espaces verts, ça l'a rassuré. Il dit « Moi, j'étais inquiet de savoir de quoi j'allais leur parler, parce que c'est vrai qu'à part d'arracher leurs plantes et de laisser le terrain se reposer un peu pendant l'hiver, c'était un peu limité. » Il savait pas trop ce qu'il aurait eu à leur dire. Donc, ils se retrouvent dans une position où, voilà, c'était tout à fait intéressant pour eux de se rendre visibles et d'entrer en relation avec la population en amont, mais qu'ensuite, pendant, bah, ils n'ont pas forcément les compétences pour participer vraiment à ce projet. Mais au sein du service, il y a quand même, j'ai rencontré un jardinier qui aurait bien voulu ça. Cyril, en fait, je lui demande là, Cyril, qu'est-ce qu'il préfère parmi toutes les tâches qu'il a à faire en tant que jardinier municipal. Et puis il m'explique, ce que je préfère dans le métier, c'est vaste, hein, le métier est très vaste. Moi, ma préférence va dans les petits jardins. J'aime bien les potagers, parce que j'ai un potager, alors voilà. Donc je lui demande si c'est chez lui ou au jardin familial, et il me répond, j'ai un jardin familial, oui, et j'avoue que ma passion est plus là-dedans. Les fleurs aussi, j'aime m'occuper des fleurs, mais les petits légumes, j'aime bien. Vu qu'à la commune, c'est des fleurs, pas des légumes, alors je fais des fleurs. Mais au fil de la discussion, finalement, il ressort que lui, ça l'aurait vraiment bien intéressé d'entrer vraiment dans cette pratique plus potagère avec les habitants et finalement d'enrichir sa pratique habituelle plutôt horticole en participant vraiment à suivre le projet des habitants. Dernier exemple, c'est Vernier. Alors là, c'est celui qui est le vraiment riche pour voir dans quelle mesure ces pratiques habitantes ont participé à remettre, enfin à faire évoluer l'ensemble des pratiques du service. Donc à Vernier, c'est le service des espaces verts qui a créé de manière vraiment proactive les potagers urbains. C'est le directeur du service des espaces verts qui voulait vraiment s'adresser à la population et leur proposer des espaces de jardinage. Et donc, en fait, il y a un responsable au sein du service des espaces verts qui est là pour faire la relation avec les habitants. Et donc, il va voir toutes les semaines ce qui se passe. Il est vraiment responsable de ces plantages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Vernier, ces plantages ne sont pas vus comme un dispositif isolé. D'une part, ils entrent pleinement dans l'entretien différencié. Il y a une catégorie d'espace dans l'entretien différencié, c'est plantage. Donc c'est vraiment pris en compte de manière intégrale dans le plan d'entretien de la commune. Et d'autre part, en fait, ça entre dans toute une série de dispositifs de mise en relation avec les gens. Et notamment, en fait, ils le mettent largement dans la même lignée que les concours de fleurissement. Ils expliquent que, en fait, les concours de fleurissement marchent plus trop et que, du coup, il fallait trouver un autre moyen d'impliquer la population dans la végétalisation de la ville et que, finalement, ça passe par les potagers urbains. Et ça, c'est intéressant parce que cette filiation-là, elle est rarement faite. On parle souvent du potager urbain qui serait issu soit des jardins familiaux, soit des guérillas jardinières, etc. Mais en fait, ça peut aussi être mobilisé comme un dispositif qui prend la suite de quelque chose qui existait déjà, là. Voilà. Donc en fait, à Vernier, il y a une assemblée générale annuelle où les jardiniers sont là pour redonner des éléments d'information, faire un petit peu des remontrances vis-à-vis de ce qui s'est passé toute l'année. Il y a aussi une fête annuelle où il y a le directeur du service et le responsable plantage qui viennent faire une fête avec les habitants. Mais le dispositif intéressant, c'est le marché aux plantons, qu'on a déjà pu voir un petit peu dans le film la dernière fois. En effet, depuis qu'ils ont mis en place le potager urbain, la commune s'est interrogée sur son marché au géranium, parce que jusqu'à présent, elle faisait un marché au géranium. Mais ils se sont dit, bon, maintenant qu'on propose des espaces à jardiner aux gens, c'est aussi qu'est-ce qu'on va leur proposer comme type de jardinage. Et en fait, ils se sont rapprochés d'une fondation qui s'appelle Prospecirara, qui c'est un réseau en fait de semences anciennes, paysannes, etc. Et donc, en fait, au lieu de proposer des cours de jardinage, il propose le marché aux plantons, qui est une grande journée de fête autour du jardinage, des plantes, etc. Et c'est ce qu'ils disent là, voilà, à travers, dans la première citation qui est un petit peu longue, mais la dernière phrase suffit, notamment à travers le marché, ils essayent d'avoir des points d'impact et de faire prendre conscience aux habitants de la manière dont ils pourraient jardiner. Et en fait, c'est à travers la mise en place des plantages que le service a transformé son traditionnel marché au géranium en marché au géranium et plantons Prospecirara. Et il y a eu tout un enjeu autour de ça, qui était de savoir est-ce que on l'appelle marché au géranium et au planton ou marché au planton et au géranium. Au niveau identitaire, c'était de dire est-ce qu'on propose plus du légume ou plus du géranium, nous, en tant que jardiniers communaux. Il y a eu un débat à l'interne entre le responsable de la production horticole et le responsable du service qui hésitait à ce qu'il fallait mettre en avant le plus. Donc en fait, à partir de l'objet potager, se sont diffusées de nouvelles pratiques dans le service. Il y a eu ce marché aux plantons. Ils ont aussi pris des animaux Prospecirara. Ils se lancent dans de l'élevage d'animaux Prospecirara. Ils ont aussi fait un marché, Verger prospecirara. Donc en fait, il y a eu toute une nouvelle vague de pratiques qui réfléchissent maintenant aussi à faire du fleurissement prospecirara, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et ils ont vraiment, comme dit Eddy tout en bas, c'est un créneau, voilà, on a déjà les animaux, on a le verger, maintenant le marché, il y a tout qui est crédible, on a une ligne directrice, on ne s'éparpille pas, on a trouvé notre créneau. Donc en fait, à partir des pratiques de potager des habitants, eux, ils ont développé un nouveau créneau qui est celui de la plante potagère agricole, etc., et de l'animal, enfin... Et ils font ça à l'interne notamment, en fait, c'est toutes les tomates et tous les cardons et tout ce qu'ils vendent, en fait, c'est les apprentis qui s'en occupent. Donc, ça a vraiment donné une nouvelle identité au service. Et ça, ça me paraissait intéressant. Et je vais juste finir aussi sur cette question, sur une démarche qui a été intéressante, c'est que non seulement donc, c'est les jardiniers qui mettent en place la plupart du temps les potagers, mais il y a eu des fois des tentatives de carrément les faire s'approprier complètement cette question agricole en leur laissant une parcelle dessus. Au Grand Saconnet, qui est une commune... très engagé dans la question du potager, notamment parce que le directeur du service des espaces verts est aussi un maraîcher, en fait. Lui, il a voulu laisser une parcelle aux apprentis, pour que les apprentis, en fait, enrichissent leur pratique en ayant une parcelle de maraîchage. Mais simplement, il les laissait aller jardiner sur leur temps de service, mais pas récolter les fruits. Donc ce qu'il explique, c'est que finalement, les apprentis se sont peu intéressés à cette question, et il a dû supprimer cette parcelle agricole. À Tonnet également... au départ, c'était prévu que pendant l'été, sur les parcelles des écoles et des crèches, ce soit les jardiniers du service des espaces verts qui viennent finalement arroser, etc. Mais en fait, ça n'a pas été fait parce que les jardiniers n'ont pas le temps de le faire. Mais ce qu'on voit, c'est que donc il y a aussi des tentatives de dire que finalement, ça peut aussi être une des pratiques des jardiniers. Et c'est à chaque fois c'est cette idée de sortir un peu de la pratique purement horticole. Mais c'est juste pour conclure que en fait, l'enjeu du jardinage potager en ville va bien au-delà de la limite du potager. Et ça interroge vraiment, et à différents niveaux, les pratiques professionnelles, tant au niveau des directions de service qu'au niveau des jardiniers eux-mêmes. Ils essayent de voir comment les prendre en compte, sous quelle forme s'y impliquer, et comment créer des partenariats fertiles avec la population. On voit que ça peut vraiment entraîner des changements de pratiques importants. L'exemple de Vernier est vraiment frappant dans ce sens, puisque c'est... depuis la pratique habitante du plantage, qui se sont interrogés sur quelle identité donner à notre service, et qui se sont transformés, on le voit là, ils font carrément des grands panneaux, la ville de Vernier soutient Prospecirara, c'est une démarche sérieuse de sauvegarde des variétés, etc. Donc il y a vraiment toute une nouvelle identité. Le deuxième élément de conclusion, c'est l'émergence aussi d'une nouvelle spécialisation, notamment de ces jardiniers conseils qui interviennent dans les potagers urbains. Une sorte de... Alors, c'est pas pour dire qu'il n'y en avait pas avant, mais là, c'est des gens qui ont fait l'école d'horticulture et qui se spécialisent dans le conseil au potager. Voilà, donc je pense que ça incite à prendre un petit peu au sérieux aussi ces différentes pratiques habitantes, de voir, et je trouve que de voir c'est la manière dont circulent et communiquent ces différents acteurs, ces différents modèles, ces différentes catégories de ce qu'est la bonne nature urbaine, ça réinterroge le modèle horticole, notamment avec la question du modèle peut-être agricole ou maraîcher des espaces verts. Voilà. Merci.